Le lait bio de la Guilbardière, ça vous dit quelque chose? C'est bien possible car on le trouve dans la plupart des magasins et des supermarchés de Blois et de ses alentours. Il est produit quotidiennement à la ferme de la Guilbardière à Montoux-sur-Bièvre, que vous avez même peut-être visité en sortie scolaire. Nous sommes allés à la rencontre d'Anne Martin et de Gilles Guélier, gérants d'une ferme très active et pas comme les autres. Ils élèvent leurs vaches, cultivent leurs champs, mais ont aussi choisi d'ouvrir leur ferme à un public extérieur pour différentes activités. Gilles, de son côté, a fait des études d'électronique et d'aménagement du territoire, mais il n'avait pas vraiment envie de travailler dans un bureau. Alors il a parcouru la France pendant 2 ans et observé différentes façons de faire dans les fermes. Il s'est ensuite installé en 86 sur la ferme de ses parents. Anne, elle, s'est installée 10 ans plus tard, avec un parcours plutôt différent.
J'avais une formation d'animation et j'avais envie de faire de l'accueil pédagogique à la ferme. Et donc, mais il fallait quand même que je passe un diplôme agricole à l'époque où moi je me suis installée. Gilles n'était pas obligé, mais moi j'étais obligée de passer un diplôme agricole, donc j'ai fait un BEPA agricole et je me suis installée pour faire d'accueil pédagogique et de la transformation fromagère. J'étais animatrice en prévention santé et je faisais beaucoup de choses autour de l'alimentation et c'est ça qui m'a donné envie de venir m'installer là. J'arrêtais pas de me dire, mais c'est dommage, il faudrait vraiment que je montre aux enfants que ce qu'ils ont dans leur assiette, à un moment, c'est produit. Pour qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent, il faut qu'ils sachent comment c'est produit, quoi. Donc ici, dans cette salle, moi, je passe donc 2 journées par semaine à l'accueil pédagogique. Et je reçois à peu près 1700 personnes par an. Alors, sur les 1700, je dirais qu'il y a 1200 enfants et puis peut-être 500 personnes autres publics. Ça peut être des maisons de retraite, des gens en ESAT, enfin voilà, des différents publics. Hier, j'ai reçu une classe de 4e. Alors eux, ils étaient très intéressés par voir un petit peu ce que mangeait le régime alimentaire d'une vache et aussi faire de la transformation. Donc on a fabriqué du beurre et du fromage blanc avec eux. Ça, c'est une classe, mais ça peut très bien être... on va travailler autour des cultures, on va travailler autour des notions de développement durable, parce que nous, on travaille beaucoup la question du développement durable avec tous les aspects économie d'énergie, recyclage de l'eau, tout ça. Donc voilà, on peut travailler autour de ces thématiques-là. On peut, suivant les âges des enfants, moi j'ai toute une grille d'activités possibles, et puis les instituts choisissent. Alors avec des petits, ça va être plutôt autour des 5 sens. J'ai des boîtes à toucher, des boîtes à odeur, enfin voilà. Mais toujours sur la thématique de la ferme, quoi. Pendant longtemps, une classe qui venait, l'institut est venu préparer avec moi, en fait, avant de faire la visite. Alors ça, je continue toujours pour les instituts qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus ici. Et pour les autres, maintenant, enfin, une institut qui est déjà venue une fois, elle ne vient pas préparer avant, mais souvent, elle prépare pas mal dans la classe et elle exploite beaucoup après pour pouvoir, au niveau pédagogique, elles peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses avec à partir de la visite de la ferme. Donc, c'est toujours vraiment soit un point de... Des fois, ça peut être un point de départ ou ça peut être la conclusion de tout un cycle pédagogique pour elle. Ouais. Il y a eu un petit garçon qui était venu avec sa classe de CP. J'ai des classes qui viennent, par exemple, 3 fois dans l'année à 3 saisons différentes. Alors, on avait fait tout un cycle avec l'Instit. Et en fait, il s'est dit que la ferme, ça lui plaisait beaucoup. Ses parents ne sont pas du tout là-dedans. Je crois qu'ils sont informatiques et puis je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, le petit garçon, quand il arrivait en 3e, il fallait qu'il fasse un stage. Et il voulait le faire en ferme parce qu'après, il voulait faire un lycée agricole pour devenir agriculteur. Et il m'a appelé. Et nous, on demande toujours les motivations pour venir en stage parce qu'on a quand même beaucoup de demandes. Et il m'a dit « Ah, mais je suis venue quand j'étais en CP et depuis, je veux être agriculteur. » Et alors, je lui ai dit « Ah, ben là, je ne peux pas te refuser. » Et aujourd'hui, il est en lycée agricole et voilà. Donc, il se tourne vers l'agriculture. Donc, c'est rigolo. Oui, on a quelques témoignages comme ça. Hier, j'ai eu les profs qui accompagnaient la classe de 4e. Il y a une des profs qui m'a dit « Mais mon fils est venu quand il était tout petit. » Alors, sans doute aussi avec une classe qui est venue plusieurs fois. Et maintenant, il a 20 ans. Et quand il revient, il fait ses études loin. Et quand il revient, il faut absolument que j'aie acheté soit votre lait, soit votre fromage. Parce qu'il a toujours en tête la visite qu'il avait faite quand il était petit. C'est rigolo.
Oui, des fois, c'est marrant. Ouais. Bon, je pense qu'il y a... Voilà, il y a quelques-uns que ça marque un peu, parce que malheureusement, les gens n'ont plus beaucoup l'occasion d'être vraiment en contact avec les fermes, et donc je pense que c'est quelque chose qui, dans le coup, marque, quoi.
Plus ça va, plus les écoles, à cause des budgets, sont obligées de venir avec un quart complet. Et là, quand il fait mauvais, si on doit mettre 50 enfants ici, c'est impossible. Donc moi, il me fallait absolument une extension. Puis on avait le premier étage qui ne servait pas. Donc voilà, on l'a restauré. Et on a tout fait en matériaux très naturels et très local. Donc on a isolé avec du chanvre, des chanvriers et du blésoir. On a du parquet de Montpré-Chambord. Enfin, vraiment, on a essayé au maximum de faire travailler et des artisans, mais que des matériaux écolos, quoi. Elle est hyper isolée, donc on a très très peu besoin de chauffer. On chauffe vraiment quelques heures avant de l'utiliser et ça suffit. Cette salle... Ça permet donc de recevoir des groupes plus grands. Moi, je fais plein de petits ateliers pédagogiques, donc voilà. Et puis aussi d'accueillir un nouveau public. Par exemple, ça fait plusieurs fois là qu'on loue pour des assemblées générales, d'associations. On peut projeter des films. Donc, on a déjà fait des soirées films. Tous les lundis, il y a un cours de yoga. Enfin voilà. Comme dès qu'on a un espace, et ben, ça demande qu'à vivre, quoi. Il y a une dame, elle voulait le louer pour faire un stage de danse. Et puis, c'était pas possible parce qu'il marche. Mmh. Et puis, elle me réécrit deux jours après. Elle me dit « Ah, mais je pourrais faire un cours de yoga. » Parce qu'elle donne aussi des cours de yoga. Et j'y avais dit « Oh, je lui dis, c'est dommage, on n'a pas le temps, mais il faudrait qu'on aille prendre des cours de yoga pour... J'ai la balle au dos et tout. » Et puis, elle me dit « Ah, ben, si vous voulez, je viens le faire à la ferme. Vous trouvez 10 personnes et hop. » Et donc, ben voilà, on est à peu près 10, là, du coin. Bertrand qui fait des nouilles, Gilles enlève la côte, moi j'enlève la blouse de fromagerie, et puis il y a 7-8 personnes du village, enfin des villages d'à côté qui viennent. Et voilà, nous faisons le cours de yoga le lundi matin. On a été aidés pas mal par la région centre, plus le pays des châteaux. Pour faire cette salle, c'est ça qui nous a poussé à le faire, parce que si on n'avait pas été aidé, je ne sais pas si on serait lancé dans le fait de le faire. Mais quand même, on a été aidé pour la moitié des travaux. Mais il faut absolument que voilà, on loue un peu pour rembourser l'emprunt qu'on a fait en complément des aides qu'on a eues, quoi.
Parmi les chanvriers du Blaisois dont nous parlait Anne Martin, on retrouve Denis Calu qui nous explique les avantages de l'isolation par le chanvre.
Déjà, c'est recyclable, on stocke du carbone, on n'est pas irrité à la mise en place, on n'a pas de gêne, il n'y a pas de gêne non plus allergène, si on peut dire. Ça peut capter 40% de son poids en eau, pour le restituer lorsque les pièces s'assèchent. Donc il est à la fois un régulateur de l'hygrométrie des pièces de vie. Donc on évite de passer de pièces humides à pièces sèches suivant les conditions climato. Ça empêche le développement des champignons allergènes qui peuvent se développer chez les enfants de bas âge. Ah, la capacité isolante est la même à épaisseur égale des laines minérales, d'origine minérale. Nous sommes producteurs, transformateurs, distributeurs. Le but, c'est de rester en circuit court. Et la demande est de la part d'autres constructeurs et quelques artisans locaux. Nous allons mettre en place pour la quatrième année, 50 hectares encore. C'est une culture très courte. Nous la semons aux environs du 1er mai. Et elle est récoltée, les faucher environ au 15 septembre. Et c'est fauché, il faut le laisser au sol. Ce qu'on appelle une activité biologique qui s'appelle le rouissage, comme pour le lin. C'est laisser des micro-champignons s'installer, manger les dernières protéines qui restent dans la plante desséchée et qui favorisent le défibrage par la suite. Alors, lorsqu'il est récolté, il est défibré par des machines très spécifiques qui sont assez complexes, pas facile à régler, à mettre en œuvre. Nous sommes arrivés à le faire avec un mécanicien innovateur. Et grâce à lui, nous avons pu, les chanvriers blésois, là, un groupe de 6 agriculteurs, à mettre une unité de défibrage artisanal en marche. Donc ça consiste à séparer la fibre du cœur de la plante qu'on appelle qui est le bois et qu'on appelle la chaîne Vought et la fibre d'à côté. Alors la chaîne Vought sert à tout ce qui est isolation maçonnée, c'est-à-dire avec de la chaux en application murale en rénovation ou entre colombages comme du torchis autrefois ou des planchers. La fibre, c'est pour tout ce qui est isolation sèche, ce qui remplace les laines de verre ou laines de roche.
Une fois cette petite précision apportée, nous retournons dans la nouvelle salle de la ferme de la Guilbardière pour une description des photos qui sont accrochées au mur.
Là, c'est l'isolation en chanvre qu'on a mis sous le sol et la pose du parquet chêne. Sur les rampants, on ne pouvait pas mettre de chanvre. C'est de la ouate de cellulose qui a été soufflée. Voilà. Et après, il a fallu mettre des plaques de fer macelle. On voulait mettre du bois au départ, mais une salle recevant du public, il faut que ce soit... Il y a des normes au feu. Ensuite, l'escalier et la terrasse, on les a fait en robinier faux acacia et en douglas. Donc on n'a pas besoin de mettre de traitement. Ça, c'est des bois qui résistent à l'humidité et qui sont pareils... Le douglas, c'est dans le massif central. L'acacia, ça peut être ici qu'on le trouve, quoi. On a tout fait faire par des artisans, hein, parce que comme on était subventionné, fallait faire travailler des artisans, ce qui est normal. Donc, tout ce qui est isolation, c'est Fabien Ravion, qui est d'à côté de Vineuil, qui est charpentier et spécialiste d'isolation bio, écolo, voilà, je crois que c'est Saint-Claude ou c'est... Oh, je ne sais plus. Là, tous les murs, là, c'est chanvre et chaux banchés. Ça, c'est des maçons qui sont auto-entrepreneurs, qui sont de Saint-Aignan. Après, on a pris, pour les peintures écolo, on a pris quelqu'un qu'on a salarié, en fait, un peintre voilà, qu'on a salarié. On a pris un menuisier, mais ça, c'est un ami qui est menuisier, voilà, et qui a fait la terrasse et l'escalier de secours. Et puis, bon, donc, le chanvre, il venait des chanvriers du Blaisois. Et c'est nous qui l'avons posé nous-mêmes, par contre, le chanvre. Et puis après, on a une chaudière aussi. On ne l'a pas montée qu'à l'occasion de cette salle-là, parce qu'on n'a pas, comme c'est très isolé, on n'a pas besoin de beaucoup chauffer, mais on a rajouté des radiateurs. Et là, on a une chaudière bois qui est vraiment très, très performante. On fait une flambée, ça chauffe de l'eau, qui après va être rediffusée soit ici, soit vers la maison, et qui consomme très peu. Pour donner un ordre d'idée, l'an dernier, pour échauffer la maison, échauffer ici, donc je chauffe tous les deux jours, on a consommé 16 terres de bois. Avant tout, oui, pour utiliser peu de chauffage, il faut surtout beaucoup isoler. Mais cette chaudière, on va faire nous-mêmes le bois dans le bois d'à côté. On l'achète 11 euros le ster. Enfin, ça va faire 180 euros pour tout chauffer, quoi. Donc là, on essaie vraiment d'être au maximum... le plus écolo. On a un petit peu de toilettes sèches là. Autrement, l'eau des autres toilettes, c'est l'eau du puits pour pas. Dans la ferme, on retrait toutes les eaux pour les retraiter. On a un système de retraitement par phytoépuration.
Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit : où vas-tu ? Monte derrière. Avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez les hirondelles, nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? J'ai beau
un morceau de pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière.
Vous êtes bien sûr Studio Zef 91.1 à l'écoute d'une émission sur la ferme de la Guilbardière. La Guilbardière ouvre également ses portes aux formations proposées par l'ADEAR pour que les idées et les expériences de chacun puissent servir à tous.
L'ADEAR, c'est Association pour le développement de l'emploi agricole et rural. Donc c'est une association qui émane de la Confédération paysanne. Et la Confédération paysanne, c'est plus sur des revendications. Mais on est de plus en plus à se dire que on a envie de faire des propositions aussi positives, montrer que c'est possible de faire autrement. Et donc l'ADEAR permet de mettre en pratique les idées qu'on essaie de défendre. Donc l'ADEAR travaille autour des réseaux d'échange de matières premières entre agriculteurs, autour de l'agroforesterie, sur tous les problèmes d'installation et de transmission des fermes. Sur les circuits courts, voilà. Valoriser ce qui est des fois fait par des paysans pour que d'autres aient envie de le faire, et puis organiser des formations, des choses comme ça. Alors pour l'agroforesterie, il y a plusieurs paysans, je ne sais pas combien il y en a en Loire-et-Cher, mais peut-être 5-6, qui ont dans leur champ plantent des arbres de manière très espacée pour allier et culture et production d'arbres qui donnera dans longtemps. Mais nous, on a fait 2 hectares là, derrière. Donc, on cultive entre les arbres. En ce moment, c'est en prairie, mais l'an prochain, ce sera en céréales, au milieu des arbres. Puis des arbres vont pousser. Nos successeurs, dans 80 ans, vendront les arbres. Il y a toutes sortes d'arbres. Donc, on va pouvoir... Ils ne vont pas tous pousser à la même... au même rythme, donc certains pourront être coupés avant d'autres. Le but, c'est que on les laisse pousser très haut, de façon à ce qu'ils ne gênent pas les cultures en dessous. Mais il y a plein d'avantages à l'agroforesterie. Quand les feuilles tombent, apportent certaines choses à la terre. En fait, elles remontent des minéraux qui sont très profonds dans le sol. Quand nous, on va sortir les bêtes, ça va faire de l'ombre, c'est pas négligeable. Et on dit que quand on fait un bénéfice avec une parcelle d'1 hectare, là on fait 1,3 de bénéfices. Donc, parce que la vente des arbres va rapporter et ça évite d'apporter certains amendements dans le sol en plus, des choses qui sont amenées avec les feuilles.
Pour l'eau aussi, ça
ouais,
doit être...
pour l'eau, la régulation de l'eau, pour le fait de l'érosion des sols. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Nous, on le fait à titre expérimental. Et aussi, avec l'ADR, on retravaille sur les semences paysannes aussi. On fait de la sélection participative de semences. Par exemple, là, on fait partie des gens qui font... On travaille sur le maïs. Il faut savoir qu'en France, le maïs, on est toujours obligé d'acheter les graines parce que c'est des hybrides. Et quand on sème une parcelle de maïs et qu'on la récolte, on ne peut pas garder des grains pour ressemer l'année d'après parce que l'hybride est stérile. Donc il est fait pour ne pas être semé, qu'on soit obligé de réacheter des graines. Alors qu'en Amérique latine, le maïs, les gens sélectionnent les plus belles pommes qui vont ressemer l'année d'après. Donc nous, là, ça fait 3-4 ans qu'on fait partie de cette... on est plusieurs paysans à faire partie de l'expérimentation. Donc on a semé... du maïs population, on a gardé les meilleurs épis, on a ressemé et là on fabrique maintenant notre propre semence. Alors à la base, c'est les paysans qui entre eux se redonnent quelques petites bases de semences et chacun refait sa propre sélection parce que le maïs qui va pousser chez nous, ce sera peut-être pas celui pareil pour les gens d'Indre-et-Loire par exemple qui étaient un peu plus en avance que nous. Parce que notre sol a d'autres caractéristiques. Donc on prend les meilleures pommes et après, voilà, il y a tout un processus. On est suivi par l'INRA pour cette expérimentation-là. Et en tous les cas, en termes de coût, quand on sème, c'est pas le même coût. Quoi. Quand on a sa propre semence ou quand on achète la semence, on n'a aucune irrigation. Alors cet été, ça n'a pas été... Oui. Heureusement que c'était notre propre semence de maïs. Dans ce cas-là, on perd beaucoup moins. Quand on fait ça, on a semé notre propre semence, on n'a pas récolté grand-chose, mais c'est pas l'enjeu de si on avait acheté, ça nous aurait coûté très très cher. Quoi. Donc nous, on pense qu'il faut qu'on retrouve beaucoup d'autonomie comme ça. Ça nous évite de souffrir de la conjoncture. Et donc la dernière réunion qu'il y a eu ici, c'était sur les espaces tests agricoles. C'est permettre à des gens qui ont envie de s'installer agriculteurs, on leur met à disposition un petit coin de terre pour qu'ils puissent se tester. Et donc, par exemple, l'Isorticole fait ça depuis quelques années à Blois. Mais là, on propose aussi que dans des fermes, on puisse proposer des espaces tests pour que des gens puissent se tester, voir avant de se lancer complètement dans l'agriculture, quoi. Par le biais de l'ADR de la Confédération Paysanne, on travaille beaucoup avec d'autres paysans. Donc, on s'enrichit beaucoup des expériences des uns et des autres. Surtout que quand il faut innover un petit peu, par exemple, dans les semis de prairies, dans les semis de mélange céréalier, tout ça, c'est toujours très intéressant d'échanger avec d'autres, quoi. L'agriculture paysanne, c'est une démarche, en fait. C'est réfléchir à son système pour être le plus économe possible. En fait, l'agriculture paysanne, il y a un certain nombre d'axes sur lesquels on réfléchit toute l'insertion locale, la vie locale, l'autonomie décisionnelle, le fait de valoriser ses produits localement. Enfin voilà, il y a plein d'autres critères, alors que le bio, c'est sur la manière de produire. L'agriculture paysanne, ça donne pas un label, mais ça permet de réfléchir sur son système. Quand on fait des diagnostics agriculture paysanne, jusqu'à maintenant en Loire-et-Cher, on les faisait de manière collective, et ça c'est très intéressant parce que ça permet de comparer ces systèmes, de se dire ça j'avais pas du tout pensé, mais je peux retravailler là-dessus pour faire plus d'économies d'énergie, par exemple. Le but c'est ça, c'est de partager un peu. Autour de nos pratiques pour pouvoir évoluer. Et normalement, on avait un peu l'ambition de refaire des diagnostics tous les 3 ans pour voir justement en quoi on avait évolué en 3 ans. Quoi.
Une ferme, donc, avec, au-delà de la production, toute une réflexion pour continuer d'innover durablement et de partager son expérience. Mais si tout cela est possible, c'est parce qu'ils ont eu l'occasion de prendre du recul, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Ce dont nous, on est persuadés, c'est que les gens qui sortent un peu du schéma classique, soit qui inventent, qui font des cultures un peu spéciales ou qui ouvrent leur ferme, c'est quand même souvent des gens qui ont eu l'occasion de sortir un peu de... ne pas faire que de l'agriculture, quoi. Et ça leur a donné du recul sur l'agriculture. Lycée agricole et tout ça, des fois, ils ont du mal à prendre du recul et à... Il y a un peu une course aux gros tracteurs, aux grosses fermes et tout. C'est marrant, hein, des fois, je pense qu'il y en a qui sont partis dans un engrenage sans avoir le temps de prendre du recul sur est-ce que c'est vraiment nécessaire.
Et voilà, ce premier volet sur la Guilbardière est terminé. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Et surtout, restez à l'écoute, car bientôt, d'autres volets vous attendent sur les différentes activités de la ferme.
A better home awaiting in the sky.